Ça morfe, ça vend chier pour les nantis. Effet garanti, un peuple est du neuf, on retentit. Trop tard pour se repentir, ici et là. Continuons comme ça et on s'en sortira d'ici là. J'pose dur dans l'écriture comme boss one. Dur dans le rap marseillais, une valeur sûre. L'album est sorti, les jaloux parlent. J'dis rien, j'les attends au coin. L'instrumental nique les intrus à la langue trop pendue comme dit le rap. Fais pas le content, tendu. Compte rendu brut, plus aussi sec que là où on habite. Quitte à s'en sortir autant que ça se fasse vite. J'envoie la sauce, Kimco et Jeep couvre mes arrières. Défouraillés si ça sent le roussi pour mon derrière.
Coïncidence, mon rap grandit quand j'y pense. Conséquence, je provoque une affluence, fonce nos gosses, insuffisance. Peu importe, j'ai mon aisance, le couplet fait l'effet d'un gémissement, l'équipe au complet. Effectivement, je pourrais entourer de mon clan. Clame instinctivement le ton défend. J'ai grand du type qui n'a rien à perdre. Comprends que ma mère, je veux qu'elle paye les portes grandes ouvertes. J'essaye de pas rester inerte, je n'excelle dans rien du tout. Les bons comptes ne font plus grand chose. Et surtout, le monopole ne mène à rien. Ouais, je t'ai mis en cause, enfin, qu'un temps. Maintenant que je parle, je suis du genre couilleux et fin verse. Rien à se mettre sous la dent, qui en est soucieux. Laisse-moi jouer le jeu, je gère ça, tranquille, c'est vers quoi. C'est ça, je m'obstine à croire en ce que je fais. Au fond de moi, je n'ai rien de fâcheux. Ferme à la fin, encore une fois, les choses vont changer. Faut qu'on soit plus à manger.
De 1, je viens pas enseigner. De 2, je veux enseigner. Affaire personnelle. De 3, je t'ai mis au parfum. Reprends ton souffle, enfoiré. T'as qu'à Paris, ressemble à t'effarer. Je prends le pari, crois le gabarit. Toujours à faire et à flairer les bons goûts. Suivi par beaucoup et ivre. Je hais ceux qui ont grandement de quoi vivre. Avant de finir marcapé, je veux les mains copieusement diamantées et monter de grade, marre de patienter, mais niente. Personne m'amène le blé sur un plateau. Je laisse des positions, prenne plus photo. Matricule Carmona alias du CINO. Pas de la Camorra, mais du quartier Borsalino. Je rappe sans dents, sérieux et jamais en jouant. Plutôt dangereux jeune que dans Juan.
On aime l'argent.
But agir, créer les douleurs, simple aléa. Comme le troisième œil uni au proche, on est aléa.
Là une vraie connexion. Pour tout péter, bande au clan de ratacan. Nique le monopole des grands, les choses vont changer.
Faut qu'on soit plus à manger.
FFS du 9, nique tout pas de bluff, nique tout pas de bluff.
Vraie connexion,
pour tout péter, bande au clan de ratacan. Nique le monopole des grands, les choses vont changer.
Faut qu'on soit plus à manger.
FFS du 9, nique tout pas de bluff, nique tout pas de bluff.
Les gens ne s'aiment plus, tu me feras pas croire ça. En vrai les âmes sont noires si chaque fois ça foire. Car au fond tous cherchent quelque chose. Les filles, les poches, c'est plus leste de fric. Baiser avec le best, souvent celle pour lesquelles tous les potes se frottent. Étrange comme les potes changent quand tu coupes du flou. Je bande sur ta fouf, tout en demandant comment tu vas. Je pense qu'avec le flou, tu changes que de soucis. Tous veulent le nier. Mais les amis devant la monnaie deviennent des animaux. La famille, un jeu de qui strike à chaque shoot. Suffit d'une bille de 5 lettres ou NVIE. La jalousie suinte sur le front de ceux qui sont les moins loin de toi. Et même censé avoir le cran de prendre soin de toi, tu vois. Un des frères moins aimés, cléné par sa mère. Dès l'enfance commence la sale guerre. Les frères grandissent, la plaie reste ouverte et pleine de haine. Les liens se pourrissent et se poursuivent jusqu'aux enfants.
Depuis
et
la nuit des temps, Stan Johnson, la mort ici à Kingston, une cause.
Amoureuse jalousie.
Ils veulent être qui je suis, peut-être ce que j'ai. Même mon insuccès, mec, c'est
amoureuse jalousie.
J'arrive pas à vivre, pourtant mon cerveau à niveau, ils veulent privé de ma vie.
Amour et jalousie.
Noir et noir, moi ou toi. Pourquoi toi, pas moi. Pourquoi moi, pas toi. Voilà.
Amour et jalousie.
Moi-même j'étais jaloux jadis. Je jouais tout ce que j'avais pas jusqu'à ce que maman dise. Fils, patience, t'arrives.
Et elle arrive.
On la voit tous, on veut y arriver.
Et ton rêve.
Et pas le leur surveille, c'est navet qui te suivent. Jusqu'à ce que tu sois trop loin d'eux. Puis coule ton navire. Ainsi va la vie. Vu qu'un nantis qui subit sort. Jette la faute sur celui qui s'en sort. Son unique but, jouer les justiciers. Ils veulent.
Ciao, bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire pour défroisser le chiffon, l'occupation rituelle du deuxième samedi du mois. Ce matin, éclusons nos cafés au pas de course, chaussons gants de sparring, crampons et baudriers, et en avant Guingamp. Entre les envolées lyriques et les discours matinés de grandeur et de vertu, notre thème du jour, ou du moins l'angle d'analyse de notre invité, va peut-être être inédit pour vous. Avant cela, une petite précision s'impose. D'Effroi, c'est quoi ? Eh bien, D'Effroi, c'est Le Chiffon, le trimestriel indépendant de Paris et sa banlieue. Une actu autant plus long que les dernières 24 heures, avec un malin plaisir à aller voir derrière la trop jolie pour être honnête, Novlangue. Un journal qui s'éloigne de la dernière polémique top tendance sur les réseaux, une actu au bain-marie qui se relie bien après sa parution. Notre plus belle critique ? Aux yeux d'une lectrice, nous serions une sorte de monde diplomatique punk. Tout est dit. Pour venir nous découvrir ou nous rejoindre en proposant un sujet, chaque nouvel arrivant apportant son souffle, n'hésitez pas à nous écrire en allant sur le site lechiffon.fr. Notre numéro d'hiver qui nous réunit aujourd'hui est spécialement dédié aux Jeux Olympiques et ce que peut cacher la magie du sport. Commençons par le commencement avec une citation d'un discours du père fondateur des Jeux Olympiques en 1925, prononcé à l'ouverture des congrès olympiques à l'hôtel de ville de Prague. Je vous livre une version éditorialisée qui ne manquera pas de faire réagir mon invité que je présenterai dans un instant. L'une des utopies est de croire que le sport, entré définitivement dans les mœurs, ne risque plus d'en sortir. Grave erreur. Le sport est une contrainte corporelle entretenue par la pratique passionnée de l'effort superflu. Il n'est donc pas naturel à l'homme qui, lui, tend toujours à obéir à la loi du moindre effort. En ce moment, le sport est soutenu par la mode, puissance irrésistible mais vite épuisée. Le besoin de sport existe-t-il chez l'individu ? Non. Le bruit que l'on fait autour de certains champions reste impuissant à le créer. Il ne s'affirmera que lorsque le champion lui-même cessera d'avoir souci qu'on le regarde ou non. Le vrai sportif est celui pour qui le spectateur n'existe qu'à l'état de contingence. À ce compte-là, combien y a-t-il de sportifs en Europe ? Très peu. Voilà donc une direction dans laquelle il faudrait travailler. Moins de battages, moins de réclames, moins d'organisations restrictives, de syndicats intolérants, de hiérarchies pesantes. Et c'est difficile. C'est pourquoi j'ai réclamé le rétablissement du gymnase municipal de l'Antiquité, rendu accessible à tous, sans distinction d'opinion, de croyance ou de rang social, et placé sous l'autorité directe et unique de la cité. De la sorte et de la sorte seulement, on développera une génération sainement et complètement sportive. Aujourd'hui, l'affaire s'est compliquée car la vie est chère, et la vie chère en a transformé les éléments, et l'opinion n'est pas disposée à laisser le sport devenir un passe-temps de gens riches. Rien ne sert de nier l'évidence, on triche et on ment beaucoup. C'est la répercussion dans le domaine sportif d'une morale qui s'abaisse. Les sports se sont développés au sein d'une société que la passion de l'argent menace de pourrir jusqu'à la moelle. Aux sociétés sportives de donner maintenant le bon exemple d'un retour au culte de l'honneur et de la sincérité, en chassant de leurs enceintes le mensonge et l'hypocrisie. Voilà donc ce que déclarait le baron Pierre de Coubertin en 1925. À la veille des Jeux Olympiques de Paris 2024, pour un état des lieux critique tant des concepts à l'œuvre depuis 100 ans que de la situation actuelle, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marc Perelman, qui est professeur émérite à l'Université de Nanterre, mais avant tout architecte de formation et auteur, entre autres ouvrages, d'une étude sur les Jeux Olympiques 2024, intitulée « Les JO n'ont pas eu lieu », paru en 2021 aux éditions du Détour. Marc, vous êtes un des seuls critiques historiques du sport venu ce matin remettre quelques pendules à l'heure et peut-être mettre un ou deux crochets du droit à des idées bien arrimées dans les esprits. Bonjour Marc. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez achever de vous présenter pour les auditeurs ?
Non, votre présentation correspond bien à ce que j'ai été, puisque aujourd'hui je suis, comme on dit, à la retraite. J'ai liquidé mes droits, exactement le terme juridique. Mais être à la retraite, c'est pas être en retrait. Et donc depuis de nombreuses années, à peu près une cinquantaine d'années, et puis maintenant depuis 2017, c'est-à-dire depuis que la candidature de Paris a été avalisée par le CIO en 2017, 13 septembre exactement, 2017 à Lima, je m'intéresse et je suis de très près la candidature de Paris, donc depuis presque maintenant 6 ans, ça fera 7 ans l'année prochaine. Je suis très près de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques, pour voir comment, comment disons, une ville, ce qu'on appelle la ville haute, hein, qui n'est pas un pays, c'est pas la France qui accueille, hein, c'est Paris, avec le soutien évidemment de l'État, mais essentiellement Paris. Comment une ville haute, comment elle est en quelque sorte impactée par les Jeux Olympiques, comment, si vous voulez, les Jeux Olympiques réaménagent et donnent, comment dire, une espèce de d'atmosphère générale à une ville, voilà, sous la coupe en quelque sorte des Jeux, qui certes durent très peu de temps. Hein, les Jeux Olympiques, c'est à peu près 15 jours de Jeux Olympiques, 15 jours de Paralympiques, mais finalement relativement peu de temps, par rapport à d'ailleurs à ce qui existait auparavant, où les Jeux Olympiques pouvaient s'étaler sur plusieurs mois. Mais ce qui est surtout important, c'est la durée de l'organisation des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, c'est 7 années d'organisation, et donc forcément, une ville, une grosse ville, une ville qui a les moyens, qui est évidemment soutenue, appuyée par l'État, qui peut faire face au cahier, en quelque sorte, des charges, hein, du CIO, qui est extrêmement lourd, complexe, et qui demande effectivement des financements tout à fait imposants, qu'une ville, par exemple, d'Afrique, ne pourrait pas supporter. D'ailleurs, les Jeux Olympiques n'ont jamais eu lieu en Afrique. Voilà, donc c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir l'impact des Jeux Olympiques et pour la ville de Paris, comment depuis 6 ans maintenant, la ville et sa région ont été progressivement transformées et sont en quelque sorte presque sous le joug, hein, de la puissance du CIO, qui vient visiter régulièrement les chantiers, qui est vraiment l'organisme de tutelle, et qui d'une certaine façon a presque levé la souveraineté ou suspendu la souveraineté de l'État, de la ville, pour imposer en quelque sorte sa marque et celle de ses sponsors. C'est ça qui m'intéresse, hein, de voir, si vous voulez, la puissance en quelque sorte aujourd'hui des Jeux Olympiques, du sport en général, mais en l'occurrence en ce moment des Jeux Olympiques, pour voir comment, en quelque sorte, littéralement, un pays, ses édiles, ses politiques, comment réagissent-ils à cela ? Et on s'aperçoit, ça sera peut-être dans la suite de la discussion, on s'aperçoit que la puissance aujourd'hui des Jeux Olympiques est telle, contrairement à ce que pensent certains, je ne pense pas qu'il y ait véritablement de crise de l'olympisme en tant que tel. Bref, la puissance de l'olympisme est telle que ils réussissent, hein, le CIO réussit à faire consensus autour de sa doctrine, autour de son idéologie, et à finalement rassembler l'ensemble du champ, du spectre politique français, en gros de l'extrême droite à l'extrême gauche, à quelques exceptions près. C'est ça qui m'intéresse d'analyser.
Et je réagis, j'ai 3 réactions à ce que vous venez de dire. Déjà, une première réponse très complète. Vous parlez des durées très limitées des JO. Nous reviendrons en troisième partie en mettant en parallèle cette durée très courte des JO et l'impact sur l'urbanisme, notamment à Saint-Denis et ailleurs, qui se chiffrera peut-être en décennies. Vous m'amenez une question très naïve, mais vous parlez que certaines villes, notamment du continent africain, n'auraient pas les moyens de se payer ça. Au nom des idéaux d'universalité et de tout ce qu'on connaît des JO, le débat de financer des financements extérieurs de l'organisation des JO ne s'est jamais posé. Le CIO n'a jamais proposé de...
C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les villes qui se proposent. Et c'est ensuite le CIO qui décide. Donc, ce dont on s'aperçoit, c'est que la plupart des villes qui ont été candidates et qui ont eu les Jeux Olympiques sont des villes américaines, européennes, asiatiques. Hein, mais, par exemple, l'Afrique... ma connaissance n'a jamais eu de Jeux Olympiques. Bon, alors ça c'est une décision évidemment finale. Mais d'abord il y a des dossiers, hein. Il y a une première compétition entre les villes elles-mêmes, première compétition entre les villes pour qu'elles se portent en quelque sorte candidates aux Jeux Olympiques. Et ensuite les dossiers évidemment sont analysés et le CIO c'est lui qui décide finalement par un vote des villes qui se sont présentées est finalement élu. Voilà. Alors ce que moi je remarque c'est que un continent entier comme l'Afrique n'a jamais eu les Jeux Olympiques, tout simplement, je pense, parce que aucune ville, pour l'instant, hein, aucune ville, pour l'instant, n'est capable, disons, d'assurer le coût financier absolument gigantesque que représentent plusieurs années de mise en œuvre, vous voyez, comment dire, de la mise en œuvre, oui, des jeux eux-mêmes, hein, c'est-à-dire que on ne demande pas simplement qu'il y ait ici ou là une piscine, des gymnases et un stade. C'est beaucoup plus ce que demandent les Jeux Olympiques. Ils demandent évidemment des infrastructures absolument colossales et en particulier évidemment des infrastructures de transport, hein, qui doivent être absolument prêtes, hein, au moment du début des Jeux Olympiques. Et ça, pour l'instant, c'est vrai que c'est surtout en Europe et en Amérique. Aussi, c'est vrai, en Asie, en Chine et Japon, qu'on peut avoir des villes qui répondent à ce type de critères. Mais les critères sont extrêmement précis, hein. Il faut lire les demandes concrètes, hein, du CIO pour se rendre compte que ce sont vraiment les villes riches, en quelque sorte, qui peuvent participer aux Jeux Olympiques.
Donc une candidature d'une ville qui sent le sou 7 ans avant l'organisation des Jeux, avec une demande de bourse, si je puis dire, est tout simplement impensable.
C'est impensable.
Mmh. Donc, l'universalité a donc une limite. Mmh. Avant de revenir sur le cœur des JO, pour mieux comprendre en quoi ce thème et sa critique peuvent faire réagir et comprendre votre cheminement personnel de pensée, j'aimerais démarrer en vous interrogeant tout simplement sur votre rapport personnel au sport plus jeune. Est-ce que vous avez été charmé par les sirènes que vous dénoncez par la suite, nous y reviendrons. Je m'adresse au petit Marc. Ah.
Oui, j'étais comme beaucoup de jeunes, pas tous hein, d'ailleurs. Hein. Voilà. J'ai été sinon sportif, disons, du moins, j'ai beaucoup aimé faire du sport. Tout le problème, vous voyez, c'est ce qu'on entend par sport. C'est une des grandes discussions. Hein. Qu'est-ce qu'on définit derrière ce mot polysémique, hein, qui est le mot sport? Activité physique, activité corporelle, gymnastique, compétition. Voilà, qu'est-ce que le sport exactement? On bute toujours sur cette question-là. Enfin, tous les cas, pour moi, c'est vrai que j'ai beaucoup fait de sport dans le sens où j'ai fait un peu de compétition. Essentiellement en football et puis ski et puis tennis, voilà, hein, c'est les trois sports que je pratiquais ado, comme on dit, et qui m'ont mené pas très loin, hein. Je suis resté un compétiteur, disons, local, régional au mieux, mais j'ai pas du tout été un compétiteur de haut niveau, national ou encore moins international. Mais c'est vrai que la compétition est quelque chose d'assez assez comment dire, c'est la compétition est une espèce de prise sur les individus, hein, très difficile d'y échapper, très difficile de ne pas y adhérer quand on est jeune, parce que le monde est compétitif. Et que le sport dans cette affaire est un des vecteurs de la compétition, d'une compétition plus générale. C'est la compétition évidemment dans la vie sociale, hein, professionnelle. C'est la compétition même à l'école, hein, où vous êtes le mieux classé, le moins bien classé, vous êtes premier, vous êtes dernier, etc., etc. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que le sport et la forme de la compétition des loisirs, hein, ou la forme, disons, d'enrégimentement ou de prise sur le corps au moment des loisirs sous une forme compétitive. Donc on échappe difficilement, voyez, à la compétition sportive quand on est jeune, parce que d'emblée, eh bien, la liberté de se mouvoir, hein, d'avoir une mobilité corporelle libre, gratuite, etc., est contrariée par la compétition qui est d'emblée là, dès l'école, dès le collège, dès le lycée ou dès les clubs, hein, qui vous permettent, sous leur contrôle et avec leur mode de fonctionnement, la compétition, de mobiliser son corps.
Vous parlez d'enrégimentement, c'est ce que vous perceviez à l'époque avant de découvrir la critique du sport?
Alors de façon, pas si théorique que par la suite évidemment, mais c'est vrai que la compétition, même à un niveau faible, vous oblige à des comportements, à une mise en forme du corps, à une façon de s'entraîner, de s'organiser, à une façon de gérer, comme on dit, le temps et l'espace dans lequel vous allez vous déployer, qui est une forme de contrainte à laquelle, c'est vrai, on adhère relativement facilement. Alors c'est ça qui serait intéressant de voir, pourquoi on adhère si facilement, pourquoi jeune on adhère si facilement. Mais c'est vrai que j'ai ressenti assez fortement ces contraintes-là et la découverte, disons, de la critique du sport dans les années 70, au début des années 70, a été pour moi, c'est vrai, tout d'un coup un véritable déclic, voire un choc. Choc de conscience.
Vous n'avez pas mon conducteur sous les yeux, vous m'amenez à ma prochaine question. Tout va changer en rencontrant Jean-Marie Brome, qui est un des pionniers de la critique du sport, que nous aborderons juste après la pause de manière plus exhaustive, qui d'ailleurs livre un long entretien dans notre journal du Chiffon. Mais pouvez-vous dès maintenant décrire le contexte de votre découverte de son œuvre, votre rapport au sport dans les années 60-70? Alors, vous avez commencé à répondre à ma question, mais comment vous avez reçu cette critique du sport, vous qui étiez quand même un compétiteur, même amateur?
Oui, j'étais pas, attention, hein, je faisais pas de la haute compétition.
Non.
De la haute compétition, ça restait quand même très limité, hein. Mais c'est vrai que je suivais, comme beaucoup de jeunes, hein, je suivais les matchs de football. Alors, j'avais pas les petites vignettes Panini, mais, je savais, je connaissais le nom des footballeurs, les équipes, je suivais les matchs de l'équipe de France, les Jeux Olympiques, bon, etc., etc. Hein. Donc voilà, j'avais quand même une connaissance, hein, du monde sportif qui était relativement importante.
Et vous rencontrez Jean-Marie Brome.
Et là, voilà. Je suis élève, lycéen, plus précisément, ce qu'on appelle le lycée Condorcet, le grand lycée Condorcet. Il y a un petit lycée aussi. Donc je le croise à ce moment-là au grand lycée Condorcet. Si je me souviens bien, c'était vraiment la première fois, ça devait être en 70. Vous voyez, ça remonte déjà à plus de 50 ans. Et on me dit, ouais, il y a un type là-bas, c'est le prof de gym. Bon, à l'époque, si je me souviens bien, il y avait beaucoup d'animation, hein, dans les lycées, hein, surtout au lycée Condorcet, il y avait des groupes politiques très puissants, on était 2 ans après 68, hein, il y avait des groupes politiques très puissants, des maoïstes, des anarchistes, moi j'étais plutôt du côté des trotskistes, hein, comme Brome. Et on me dit, voilà, il y a un prof de gym, il y avait une grande salle où je sais plus qui avait invité un orateur pour développer tout un discours autour de la question de la culture en Allemagne, la jeunesse, etc., etc. Et au fond de la salle, il y avait Brome qui interpellait cet orateur qui s'appelait Jean-Michel Palmier, hein, décédé depuis, et qui était un prof, je crois, de Paris 8 à l'époque, Vincennes. Et c'était tout à fait étonnant de voir un prof de gym, hein, qui tout d'un coup était capable de produire un discours vraiment donc qu'on n'attendait pas du tout d'un prof de gym, qui était plutôt là pour vous remettre dans la ligne droite, soit avec son sifflet pour vous remettre dans le bon rang, soit pour plutôt crier des mots d'ordre et autres, etc., pour vous encourager, ou au contraire pour vous engueuler parce que vous avez fait une mauvaise passe, que sais-je encore. Là, tout d'un coup, il y avait ce gars qui, visiblement connaissait beaucoup de choses et était capable de reprendre un intervenant dans cette salle dont je me souviens, où il était capable de parler de l'Allemagne des années 30, capable de montrer en quoi la jeunesse avait été organisée par l'hitlérisme en particulier, quelle avait été l'importance des Jeux de Berlin en 1936, etc., etc. Et puis par hasard, en 71, je l'ai eu comme prof, tout simplement, d'éducation physique et sportive, EPS, on appelle ça. Et donc là, j'ai pu faire connaissance, mieux connaissance avec lui. Entre-temps, j'étais militant politique. Hein. J'étais, vous l'ai dit, dans le courant trotskiste, hein, plus précisément le courant lié à la Ligue communiste. Et Jean-Marie, ancêtre lointain du NPA, voilà. À l'époque, nos mentors, c'était Alain Krivine, Daniel Ben Saïd, Henri Weber, bon, etc. Et Jean-Marie Brome faisait lui déjà partie hein, de la Ligue communiste. Il avait quitté un autre groupe trotskiste qu'on appelle les Lambertistes, hein, qui s'appelait l'OCI, dans laquelle il avait milité et dans laquelle il avait vraiment, comment dire, il avait assis la critique du sport. C'est vraiment au sein de l'organisation communiste internationaliste, ce qu'on appelle les Lambertistes, hein, qu'il a vraiment fondé la critique du sport au milieu des années 60 et qui lui a donné vraiment ses lettres de Nobel, si je peux dire. Voilà. Mais moi, je l'ai connu juste après. Hein, juste après.
On va arriver au cœur de sa pensée. Une dernière question avant une petite pause musicale. Du coup, est-ce que ça a changé votre rapport au sport et à la pratique? Est-ce que vous êtes resté pratiquant en devenant critique? Et on va y venir, j'invite l'auditeur à rester juste après un super disque, mais sur alors, votre rapport au sport.
C'est vrai que les discussions que j'ai pu avoir avec lui, et puis surtout les lectures hein, qu'il m'a conseillées, en particulier un numéro de la revue Partisan, qui était une revue éditée par les éditions Maspero, par François Maspero, qui s'appelait Sport, Culture et Répression, voilà, qui était paru en juillet-septembre 68. Et donc, moi, je le lis 2 ans, 3 ans après. Bon, moi, à l'époque, j'ai 18 ans. Hein, c'est, voilà, faut, hein, relativement jeune. C'est vrai que quand je lis les différents articles qui ont été publiés dans cette revue, et en particulier, c'est vrai, la critique fondamentale sociopolitique du sport, le rôle du champion, la place des institutions sportives, etc., etc., les positions politiques des autres partis politiques, en particulier le Parti communiste, hein, qui à l'époque était très puissant, hein, et bien là, tout d'un coup, c'est le déclic, c'est une vraie, enfin, une prise de conscience violente qui me fait tout d'un coup catapulter, si je peux dire, vers autre chose. Hein. Je me dis tout d'un coup que voilà, la compétition, c'est plus pour moi, et que maintenant, voilà, une autre forme, disons, de mobilisation de mon corps va pouvoir advenir, en l'occurrence, le militantisme des années 70, hein, qui était un militantisme quotidien, où le corps était d'une certaine façon très mobilisé, mais de façon non compétitive.
De façon libre. Je vous disais qu'à vous lire, hein, moi, je suis devenu sportif sur le tard et je culpabilisais d'être hypnotisé par certains sports de combat comme la boxe ou le MMA. Est-ce qu'il y a encore un événement sportif qui a grâce à vos yeux aujourd'hui? Est-ce que...
Ah non, là, ma critique, elle est devenue totale, on dit radicale, elle est vraiment sur l'ensemble hein, des compétitions sportives, quelles qu'elles soient, du football, du rugby, de l'athlétisme, de la natation, etc. Voilà, donc je distingue plus tel ou tel sport, hein. Je pense que le sport a une unité profonde, avec ses variantes qui peuvent être dans l'eau, dans les airs ou sur terre, mais que globalement, la compétition, elle se fait partout, sur terre, dans l'air et sur l'eau. Hein. Et donc c'est ça qui, moi, m'intéresse, c'est de voir comment la compétition sportive est devenue universelle, hein, qu'elle touche tous les pays, et qu'elle s'aligne, voyez, sur un invariant, si je peux dire, universel, hein, c'est le record. Voilà. Tout le monde est associé au record.
On va y arriver dans un instant. J'invite les auditeurs à rester pour une critique très minoritaire, voire silencieuse aujourd'hui. Au diable, la bande originale de Rocky ou autre hymne à la performance sportive qui viendrait à l'esprit. Prenons un contre-pied total avec un groupe pépite pour un son plein d'empathie avec vos oreilles encore en phase de réveil. Une trip-hop matinée d'harmonique qui rappelle l'Europe centrale. J'ai nommé Ghost Rider par Nouvelle Vague. A tout de suite. Après les dernières volutes de ce son éthéré pour revenir en plein milieu du stade pour l'émission du trimestriel de Paris et sa banlieue, Le Chiffon, et son numéro spécial dédié aux Jeux Olympiques. Nous sommes toujours en compagnie de Marc Perelman, architecte et critique du sport depuis les années 70. Merci à nouveau d'être là. Votre premier écrit date de l'hiver 72, renéotypé témoin d'une époque. Vous traitez du sport de compétition alors que vous n'étiez que lycéen dans le cadre d'une campagne contre les JO de Munich. Est-ce que vous vous souvenez précisément de ces JO de Munich et du pourquoi ? On a commencé à répondre avant la pause, mais est-ce que vous voulez...
Je me souviens bien alors du dossier que j'avais fait. Dans le cadre justement de l'organisation où je n'étais à l'époque que sympathisant encore, hein, si je me souviens bien, 72, ouais, j'étais encore sympathisant, dans le cadre de ce qu'on appelait les comités rouges ou les cercles rouges, entre le lycée Condorcet d'ailleurs
et le lycée Racine, parce qu'à l'époque, les lycées n'étaient pas mixtes. Condorcet, c'était des garçons. Racine, c'était des filles. Bref, on avait fait ce petit dossier, voilà, de 6 pages que j'ai retrouvé parce que je suis en train de trier mes archives et je les ai proposées à la bibliothèque La Contemporaine à Nanterre. Bref, en regardant mes archives, j'ai redécouvert ce petit texte-là et c'est vrai que c'était un texte qui s'appuyait beaucoup sur la lecture de la revue dont je vous ai parlé, la revue Partisan, hein, Sport, Culture et Répression, que je citais et puis que j'essayais d'actualiser avec ce qui se passait à ce moment-là, c'est-à-dire les Jeux Olympiques de 72. Sinistre Jeux Olympiques, hein, de 72, parce que Jeux Olympiques à Munich, première fois où l'Allemagne retrouvait, si je peux dire, l'olympisme, après 1936, les Jeux de Berlin, ou ce qu'on appelait les Jeux nazis, hein, de Berlin. Et donc pour l'Allemagne, c'était très important d'avoir ces Jeux, puisque c'était les Jeux d'après la Seconde Guerre mondiale, où il y avait une espèce de... Voilà, d'effervescence, où l'Allemagne nouvelle, hein, voulait présenter son meilleur jour, si je peux dire, hein, son meilleur aspect. Et patatras, il y a un attentat. Il y a un attentat qui touche au symbole, qui touche les Israéliens. Un attentat perpétré par un groupe qui s'appelait Septembre Noir et qui prend en otage des athlètes israéliens et... au bout du compte, les tue. Hein, et donc, 11 athlètes israéliens meurent, ainsi d'ailleurs que des policiers allemands, voilà, dans un épisode dont, visiblement, l'Allemagne, la police allemande, est en grande partie responsable. Mais moi, ce qui m'a intéressé, puis surtout, évidemment, à l'époque, j'écoutais beaucoup ce que disait Jean-Marie Brome, c'est que il expliquait que les Jeux Olympiques allaient continuer. Hein, Monsieur Avery Brundage, qui était le président, cinquième président du CIO, président d'ailleurs... À ce moment-là, pour les Jeux de Munich, disait que les Jeux Olympiques doivent continuer. Hein. C'est-à-dire qu'on allait s'asseoir, si je peux dire, sur les morts, et que le sport, en quelque sorte, allait tout simplement aller continuer. Il n'était pas question d'arrêter la compétition, y compris par rapport à un drame pareil. Donc, c'est ça, moi, qui m'a beaucoup... choqué, c'est comment continuer une manifestation sportive qui se veut le lieu d'une fête, de la culture, du rassemblement de la communauté universelle, etc., en contradiction totale avec ce qui venait de se passer. Les Jeux auraient dû s'arrêter, or le CIO a voulu qu'ils continuent.
Donc de cette onde de choc viendra une revue. Vous citez décidément, vous lisez mon conducteur dans mes pensées. Donc Jean-Marie Brome, nous le rappelons pour les auditeurs, professeur émérite de sociologie à l'université de Montpellier 3, qui est avant tout un des pères de la critique du sport, avec qui vous cofondez la revue Quel Corps en 74. L'aventure ne durera que quelques années, qui s'arrêtera en 77, si mon information est bonne.
Non, plus tard.
Un peu plus tard. Oui. Vous nous direz. Oui. Parlez-nous un petit peu de cette revue avant d'arriver à... je peux peut-être préciser pour l'auditeur, mais cette critique est donc tout à fait marginale. Le phénomène paraît incontestablement vertueux. Et vous vous rejoignez tous les deux pour situer à peu près l'essor du sport moderne vers 1750 en Angleterre, avec les premières fédérations, des règlements, des records. Et vous associez cela à l'essor du capitalisme pour battre en brèche l'idée reçue du sport présent depuis la nuit des temps. Est-ce qu'un petit mot pour l'auditeur, une idée qui est encore largement partagée, hein?
Alors à l'époque, milieu des années 70, la critique du sport est relativement partagée. Hein. On est encore dans l'après 68, 4-5 années après les événements 68. Il y a des revues, hein, la revue Partisan que je vous ai dit, Sport, Culture, avec l'intitulé Sport, Culture et Répression. Il y a aussi, des syndicats. Hein, je pense en particulier à l'École Émancipée, qui est un syndicat qui regroupe les enseignants et qui regroupe beaucoup de professeurs d'EPS, d'éducation physique et sportive. Et en l'occurrence, Jean-Marie Brome, à l'époque, est un de ceux qui mène vraiment ce syndicat au sein même de ce qu'on appelait à l'époque la Fédération de l'Éducation nationale, qui était la grande fédération qui réunissait l'ensemble des enseignants du secondaire. Et lui, il en était un peu à la tête donc de l'école émancipée et développait une critique du sport qui à l'époque avait une base professionnelle, vous voyez, chez les membres de l'EPS, hein, chez les professeurs d'éducation physique et sportive, qui étaient assez importantes, hein. Les résultats, même tout simplement en termes syndicaux, étaient assez intéressants, et la critique du sport était assez partagée, dans le sens où pour beaucoup de professeurs d'éducation physique et sportive, il n'était pas question que leurs cours deviennent les lieux de recrutement de futurs sportifs. Hein, ils se bagarraient contre toute une série de décrets qui étaient mis en œuvre après 68, hein, en particulier par les ministres du sport du général de Gaulle, qui disaient que la France n'est pas assez sportive et que tout simplement pour avoir de grands sportifs, il faut recruter vite et tôt, et donc le vivier, c'est tout simplement l'école. Bon. Et les professeurs d'EPS ne voulaient pas devenir en quelque sorte les responsables d'une détection de la jeunesse pour ensuite les préparer, les encadrer et ensuite les envoyer dans tel ou tel lieu de formation du sport de compétition. Donc il y avait une bagarre assez importante pour refuser au sein même, vous voyez, des cours d'EPS toute compétition. Refuser toute compétition, donc refuser toute présence en quelque sorte du temps chronométré, des espaces trop bornés, de l'uniforme, etc., de l'ordre en quelque sorte, vous voyez, compétitif, qu'on essayait d'installer au cœur même des cours d'EPS.
Donc, votre confrère Jean-Marie Brôme souhaite distinguer les techniques du corps spécialisé de l'être humain que l'éducation physique contemporaine permet de stimuler et le sport proprement dit, qui est éminemment lié au capitalisme selon lui. Est-ce que vous associez à cette distinction ? Est-ce que le critère, ce serait du coup la réglementation ou son absence ?
Alors c'est ça qui a, c'est vrai, vraiment défini les thèses, hein, que nous avons produites en 74, 75 pour le premier numéro de la revue Quel corps, avec un point d'interrogation d'ailleurs.
Avec le point d'interrogation, voilà. Il ne se voit pas en radio.
Voilà. Merci. Qu'on ne voit pas en radio, qui est pas un point d'exclamation, un point d'interrogation, parce que nous voulions vraiment interroger en quelque sorte la dynamique du corps, hein, l'avenir en quelque sorte du corps, hein. Interrogation qu'on peut d'ailleurs poursuivre aujourd'hui encore, hein. Quel corps voulons-nous produire, hein. Et les grandes aujourd'hui, les techniques transhumanistes en particulier, ou de transformation, disons, du corps, d'une certaine façon, maintiennent, hein, cette interrogation originelle que nous avions posée avec cette revue. Voilà, donc cette revue, elle a été créée en 74, fin 74, avec une série d'amis, hein, plutôt lié d'ailleurs au lycée où nous étions, hein, j'ai le souvenir et je lui rends hommage, il est décédé, de Bernard Yanez en particulier, qui était un de ceux qui a vraiment, au départ, vraiment participé à la fondation de la critique du sport. Mais c'est vrai que le père, alors je dirais un peu pour rire, le grand-père aujourd'hui, hein, de la critique du sport, c'est Brôme, hein, c'est vraiment lui qui vraiment a eu ce coup de génie intellectuel, théorique, conceptuel, de nous dire que le sport, c'est pas simplement des performances, des prouesses, un spectacle, etc., mais que c'est avant tout une prise sur le corps dans le cadre d'une institution globale, où le temps et l'espace sont entièrement contrôlé et où le corps n'est plus évidemment le corps libre, spontané, une mobilité libre, un rapport à la nature gratuit, que sais-je encore. Il est dans le cadre de la compétition qui naît précisément à la fin du 19e siècle, de manière vraiment très concrète, dont on peut voir une genèse, disons, plus lointaine, hein, 18e siècle, etc., mais vraiment qui fin 19e, où sont fondées les fédérations de football, de rugby, d'athlétisme, etc., où sont fondées les grandes instances internationales, hein, le CIO, etc., eh bien, fin du 19e, Et c'est ce que dit Jean-Marie Brome à ce moment-là. De manière concomitante, la compétition sportive naît en même temps, de manière, voilà, disons, de manière concordante avec la naissance, disons, d'un capitalisme vraiment bien établi. Le capitalisme, il naît sûrement bien avant, hein, dès le 15e siècle, mais les formes, disons, la forme capitaliste structurellement telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec voilà la massification des ouvriers, des lieux bien particuliers que sont les usines, etc., etc. C'est la fin du 19e siècle. Et lié à cette, comment dire, à cette vaste organisation de la compétition sous la forme du marché capitaliste, eh bien, s'associe la compétition sportive qui, sur le terrain du loisir, entre guillemets, du divertissement, de la distraction, de la mobilisation du corps hors du travail, eh bien, se fait sous cette forme de la compétition sportive. Et ce qu'indiquait bien Jean-Marie Brome à l'époque, c'est que il y a un lien, voyez, entre les formes compétitives, les formes structurelles capitalistes du marché et la forme compétitive sportive. Hein, voilà, c'est la compétition, c'est le rendement, c'est la comparaison, c'est des records, etc., etc. Voilà.
Donc l'activité physique à distinguer du sport, qui serait un vecteur d'enrégimentement à l'origine des ouvriers, maintenant de toute la société. En off, pendant cet excellent disque, nous discutions, enfin, et là vous avez parlé d'esthétique du sport, et je vous cite à nouveau votre confrère Jean-Marie Brome, qui mettait en parallèle l'artiste en disant que le sportif, lui, je cite hein, ses propos en substance, ne produit presque rien d'un point de vue esthétique et culturel, et ce dernier tendrait à être oublié rapidement après l'apogée, englouti par les nouveaux. Nous parlions de ça pendant la pause. Pourtant, j'aimerais. L'imagerie populaire est tout de même remplie d'anciens champions qui arrivent à surnager. Marcel Cerdan, Mohamed Ali, dont le statut a par exemple servi les opposants à la guerre au Vietnam, un Platini, un Zidane. Et vous me disiez qu'aujourd'hui, il y a une répétition, une surenchère de gestes techniques au détriment d'une sorte d'esthétique de l'improvisation de certains matchs que vous avez peut-être pu connaître. Je m'adresse autant aux théoriciens qu'aux footeux.
Alors c'est une question bon, qui moi me passionne beaucoup, hein, qui est celle évidemment de savoir s'il y a une beauté particulière finalement dans le sport. Hein. C'est une grande interrogation. S'il y a une esthétique en quelque sorte du sport, des sportifs, du geste sportif, etc. Bon. Alors, je pense qu'il y a une esthétique du lait, vous voyez, il y a une esthétique kitsch en quelque sorte, hein. Et l'olympisme de ce point de vue-là est un vrai kitsch d'une certaine façon. Hein. C'est quoi? C'est une espèce de modèle vulgaire, hein, de l'esthétique. Voilà, la qualité d'une beauté, voilà, d'un corps est comment dire écrasée par la technicité, par le rendement, par la prouesse, par la performance, par la compétition dans lesquelles en quelque sorte le corps est canalisé, orienté, formaté d'une certaine façon. Alors il y a certes une certaine esthétique, hein, voilà, on peut pas nier si vous voulez que quand on voit un nageur se déployer, quand on voit un athlète sauter, quand on voit un coup franc, que sais-je encore, un débordement dans une mêlée, il y a une forme, c'est vrai, esthétique, dans le sens où le corps, tout d'un coup, est mis en jeu. Le seul problème, c'est qu'il faut avoir un tout petit peu de retrait sur cette esthétique-là. Et moi, je la vois plutôt comme une forme, voyez, d'esthétique, voilà, qui est une esthétique technique, qui est une esthétique d'une certaine façon, anti-esthétique. Hein, c'est-à-dire que, à la liberté du corps, eh bien, le sport, au contraire, met en œuvre la contrainte du corps sous une forme, c'est vrai, plastique, qui est sa propre forme esthétique, mais vis-à-vis de laquelle il faut se tenir en retrait, parce que derrière le sportif qui nous éblouit, derrière la fascination que nous pouvons avoir de la gestuelle sportive, eh bien, c'est un monde littéralement atroce, hein, qui en fait nous est caché. C'est le monde tout simplement de l'entraînement démentiel. Hein. Un sportif aujourd'hui de compétition
C'est quelqu'un, il suffit de lire par exemple Laure Manaudou, hein, qui racontait comment ça se passait ses entraînements. C'est un quotidien de 10 km par jour dans la piscine. C'est des entraînements qui se suivent toute la journée, jusqu'à en vomir. Donc vraiment une violence qui est faite sur le corps, une violence qui est faite sur le corps, souvent sur des jeunes d'ailleurs, avec parfois des formes totalement ahurissantes. Je pense en particulier à certains pays comme la Chine ou auparavant même la RDA, la République démocratique allemande, l'ancienne Allemagne de l'Est, où là vous aviez carrément des casernes sportives, où les jeunes, où les jeunes étaient vraiment installés avec leur famille. Et où on les contraignait dès leur plus jeune âge à répéter, répéter des gestes, qui du ping-pong, qui des courses de sprint, qui de la natation, que sais-je encore, pour arriver effectivement au meilleur résultat possible. Donc toujours, moi, quand je vois un match, quand je vois une compétition, immédiatement, je vois, c'est vrai, une forme plastique, un développement, un déploiement corporel, mais qui est vraiment sous la contrainte, avec un formatage absolument terrifiant, disons, du corps lui-même, quand ce corps, d'ailleurs, n'est pas aidé, et ça on en parlera peut-être, n'est pas aidé par, aujourd'hui, un dopage qui n'est pas un dopage annexe, qui n'est pas un dopage marginal, mais qui est un dopage que je qualifie comme consubstantiel au sport lui-même.
Donc un phénomène total qui commence pas dès le berceau, mais pas loin. J'aimerais vous évoquer Marcel Mauss, qui parlait de croyances obligatoires de la société, et c'est ce que vous dénoncez depuis 50 ans. Je voudrais vous demander si la bataille vous semble encore gagnable, mais j'aimerais introduire votre réponse en vous citant. Lorsque vous parlez de la puissance politique d'injonction de la vie sociale du sport, vous dites qu'en un demi-siècle, le sport est devenu un phénomène de masse d'adhésion active et de mobilisation sociale. Ce n'est, selon vous, pas un phénomène de société comme les autres, mais je vous cite, le sport n'est pas un phénomène comme les autres, pardon, plus ou moins détaché ou même très éloigné d'un contexte sociopolitique général, il est la relation entre tous les phénomènes les plus détestables de la société, parmi lesquels la violence pas vraiment maîtrisée, le racisme exhibé et guillemets combattu, le dopage, vous y veniez, parfaitement maîtrisé, et l'argent qui coule à flot, auquel il est consubstantiellement rattaché. Qu'est-ce que vous avez à dire sur la teneur des discours relatifs au sport et ce qui contribue à au fait que plus personne ne conteste ses bienfaits, quoi?
Alors c'est vrai qu'en depuis 1974, j'ai vu l'évolution du sport, finalement en relativement peu d'années, enfin un demi-siècle. J'ai vu l'évolution du sport, j'ai vu l'évolution aussi des partisans dont je fais partie, de ceux qui le critiquent. Et j'ai vu la montée de la puissance de l'un, en l'occurrence le sport, qui aujourd'hui s'immisce dans toutes les sphères de la société, dans la moindre fibre aujourd'hui de nos sociétés. Et parallèlement, j'ai vu la faiblesse, l'appauvrissement d'une certaine façon de la critique du sport qui, de mon point de vue, n'a pas été capable de voir, d'apprécier, de maîtriser cette montée en puissance nouvelle, cette façon dont le sport irradie de manière totale la totalité de la société, jusque dans ses expressions les plus intimes, en quelque sorte. Et par rapport à ça, comment la critique du sport, en particulier avec Jean-Marie Baume, comment la critique du sport a été d'une certaine façon incapable de voir ce qui nous arrivait dessus. Alors ainsi que ça doit se passer, que ça s'est passé, c'est-à-dire que cette puissance, d'une certaine façon, nous a enveloppés, nous a tétanisés, a fait en sorte, si vous voulez, que nous n'avons pas été capables de prendre en compte véritablement ce que le sport est devenu, qui n'est plus simplement que du sport, mais qui est devenu vraiment,
En tous les cas, c'est ma thèse qui est vraiment devenue aujourd'hui l'élément fondamental de nos sociétés. Hein. Le sport n'est plus simplement ce que l'on voit à la télévision, n'est plus simplement que les matchs, n'est plus simplement que les grandes institutions sportives, le CIO, la FIFA, c'est plus simplement les coupes, hein, le rythme des coupes du monde de football, de rugby, les Jeux Olympiques. Le sport, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, qui a pénétré aujourd'hui la totalité, voyez, de la société jusqu'à nos mentalités, jusqu'à notre imaginaire. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète. Alors, relayé évidemment par la télévision, mais aussi beaucoup aujourd'hui relayé par les réseaux, par les écrans, hein, à perte de vue, qui font que le sport n'est plus simplement un moment particulier, voyez, de la vie, tel match, tel événement sportif, mais est devenu quelque chose de permanent, de continu, et qui, en quelque sorte, s'est imbibé véritablement en nous, et apparaît aujourd'hui, hein, c'est ça qui, moi, m'intéresse, apparaît aujourd'hui presque comme une seconde nature. Hein, le sport, voilà, est presque comme un acquis de l'humanité, une seconde nature, quelque chose, finalement, comme le soleil, hein, on critique pas spécialement le soleil.
Sachant, par exemple, ce que vous disiez sur la jeunesse de Chine ou d'ailleurs, les arguments n'impriment plus, parce que même toute la rhétorique de la douleur, il faut bien accoucher d'une victoire dans la douleur. Comment vous vivez ça, que même vos arguments un petit peu objectifs, hein, il est vrai qu'il y a des casernes pour éduquer la jeunesse. Est-ce que vous êtes frustré de ne pas pouvoir porter vos arguments un peu plus?
C'est-à-dire que c'est un moment à la fois inquiétant et intéressant qu'on vit aujourd'hui. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup aux Jeux Olympiques de Paris 2024, parce que je pense qu'ils sont aussi un moment, vous voyez, de cristallisation de tout ce que moi j'appréhende, hein, c'est-à-dire tout ce que j'apprécie comme nouveau, hein, dans le sport aujourd'hui, qui fait que c'est vrai, le sport n'est pas que le sport, hein, que le sport c'est pas simplement qu'une religion, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment un événement, un phénomène, vous voyez, une manifestation spectaculaire mondiale. Alors, faudrait trouver les mots, les concepts. Hein, moi, je les ai peut-être pas forcément, mais qui à la fois se présente sous la forme, vous voyez, de moments particuliers, hein, des compétitions, les coupes, etc., mais qui en même temps oblige, hein, à être en permanence lié aux événements sportifs. Et de ce point de vue-là, les Jeux Olympiques de Paris sont intéressants parce que il y a une volonté vraiment de nous faire participer, de nous faire adhérer, à cet événement.
Tout en ayant refusé un référendum, on y reviendra dans un instant. Cette troisième partie qui sera dédiée surtout au JO de Paris, je vous interroge encore en questionnant les piliers de l'idéologie du sport, hein, toujours votre confrère Jean-Marie Brome, qui en identifiait trois dans nos colonnes du Chiffon. Quel est le meilleur sportif de tous les temps pour chaque discipline? Jusqu'où pourront aller les records? Plus vite, plus haut, plus fort, comme le dit la devise olympique. Et l'illimitisme du potentiel du corps humain. Et je fais le lien avec une autre question, parce qu'on va être pris par le temps. Un phénomène qui frappe le monde du sport de ces dernières années. On avait interviewé dans un autre article un physicien du CNRS qui déclarait que le programme prioritaire de recherche a complètement modifié le paysage scientifique dans le sport français, et l'arrivée des sciences dures, des statistiques et des mathématiques dans le sport pour une quantification totale du corps humain. En complément de ce troisième pilier, est-ce que vous voyez d'autres piliers à cette idéologie du sport pour que l'auditeur ressorte de cette émission en comprenant les mécanismes à l'œuvre, en tout cas?
Bon, je pense que vous avez dit à peu près l'essentiel. Hein. Je pense que le sport, encore une fois, est devenu, c'est vrai, plus qu'une religion, est devenu presque plus qu'une idéologie. Hein. C'est-à-dire qu'il est devenu vraiment le mode de manifestation des individus, hein, dans leur rapport quotidien les uns aux autres. Hein. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus simplement des sportifs, des champions, etc. Mais il y a aussi la façon dont on adhère finalement à,
à ce mode, vous voyez, d'existence. Hein. Et ça, c'est assez inquiétant d'une certaine façon. Hein. C'est assez inquiétant. Donc il y a, c'est vrai, une espèce de comment dire, d'intégration, vous voyez, du modèle sportif, du modèle du champion dans l'individu lui-même. Bon. Ce qui fait que la jeunesse est beaucoup identifiée aux sportifs. Hein. On s'identifie plus évidemment aux hommes politiques. On s'identifie plus aux comédiens. On s'identifie encore moins aux écrivains. Hein. Mais aujourd'hui, on s'identifie essentiellement aux sportifs. Hein. Et là, c'est un modèle, voyez. Qui me semble intéressant justement à analyser. Mais en même temps, hein, on va aborder la question. En même temps, ce qui est assez curieux et paradoxal d'une certaine façon, c'est que en même temps, il y a, par exemple, pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, il n'y a pas vraiment une grande effervescence hein, autour de Paris 2024. Hein. On peut pas dire vraiment que la population française, francilienne, parisienne soit vraiment excitée hein, par les Jeux Olympiques, et même peut-être l'inverse. Hein. Donc là, il y a quelque chose d'assez paradoxal, d'assez intéressant hein, du point de vue de la situation politique dans laquelle justement arrivent les Jeux Olympiques, alors liés évidemment à beaucoup d'événements, hein, en particulier la guerre. Hein, la guerre en Ukraine, la guerre avec Israël, et peut-être des guerres prochaines, hein, en particulier la menace de la Chine sur Taïwan, dont on parle peu, mais qui approche. Et puis évidemment, ce qui se passe en France même, hein, les attentats et autres, qui fait que voilà, l'intérêt pour les Jeux Olympiques apparaissent de moins en moins évident la débauche, surtout la débauche d'argent, hein, l'aspect dispendieux, c'est-à-dire vraiment on voit bien que le budget qu'on nous avait présenté comme limité, que juré craché, qu'on ne dépasserait pas, va être dépassé, c'est évident.
Même voilà. La Cour des comptes reconnaît qu'ils ne peuvent pas chiffrer exactement voilà.
Plus les questions de sécurité. Et donc, il y a quelque chose, vous voyez, très paradoxal. À la fois, on nous présente les Jeux Olympiques comme une grande fête, et en même temps, on nous dit il n'y aura jamais autant de policiers, de gendarmes, de militaires.
Voilà, plus une surveillance algorithmique sur laquelle nous revenons dans nos colonnes. Nous n'avons pas le temps d'évoquer tous les sujets. Juste avant la pause, j'aimerais juste vous questionner finalement sur un argument fort à la défense du sport. Hein. Vous êtes seul sur le plateau, donc je ne peux être que l'avocat de la partie adverse. On peut évoquer une histoire populaire du football. Je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage de Michael Corsia, ou encore l'éloge de l'esquive d'Olivier Gouez qui traite des vertus émancipatrices du sport et notamment du football. Un exemple marquant dans ce second ouvrage qui évoque notamment l'art du dribble comme inventé à l'origine par nécessité par les minorités ethniques pour éviter la violence des contacts directs. Il ne serait pas, d'après l'auteur, né par hasard au Brésil. Les premiers joueurs avec un fort taux de mélanine ont commencé à dribbler pour éviter les contacts avec les défenseurs plus clairs de peau, pour éviter de se faire rosser sur la pelouse. Qu'est-ce que vous avez à dire de cette dimension qu'on nous objectera ? Le standard n'est pas ouvert ce matin, mais les vertus émancipatrices, en tout cas, sont mises en avant en défense du sport.
Souvent, hein, on nous explique que le sport, c'est l'éducation, c'est la culture... Que sais-je encore ? C'est la solidarité, c'est le respect de l'autre, c'est, etc., etc. Bon, et c'est vrai qu'il y a une vraie adhésion à ces idées-là, d'une certaine façon. Bon, moi je dis, prenons un petit peu de retrait avec ça et analysons. C'est ça qui est le plus difficile, c'est l'analyse, parce que le sport, dès lors que vous parlez sport, l'analyse est difficile. Dès lors que vous commencez à discuter sport, vous n'arrivez plus à discuter vraiment sous la forme de concept théorique, d'analyse. Immédiatement, vous êtes embarqué sur la prouesse d'un tel, l'imaginaire d'un tel, la magie du football, l'histoire de telle équipe, la légende de Zidane ou de Ronaldinho, que sais-je encore. Et le sport a cette puissance, en quelque sorte, évocatrice, qui fait que l'analyse est d'autant plus l'analyse critique est extrêmement difficile, disons, à mettre en avant. Dès lors que vous doutez du sport, dès lors que vous mettez en doute un élément du sport de compétition, voilà, la personne que vous avez en face ne comprend plus véritablement de quoi vous voulez parler. Pour elle, d'ailleurs, vous ne parlez plus de sport. Vous parlez d'autre chose. Or, précisément, la critique du sport, c'est voulu une critique à l'intérieur, vous voyez, du fait sportif, à l'intérieur même de la manière dont le sport domine, à la fois domine d'un point de vue visuel, hein, la télévision, les écrans, etc., et domine du point de vue voilà, de son organisation sociale, de la façon dont elle pèse, dont le sport pèse aujourd'hui sur l'ensemble des individus. Donc il y a une vraie difficulté à exprimer ne serait-ce que des idées contraires, voyez, à par exemple ce que vous dites. Bon, alors c'est sans doute pas faux, hein, de dire que le dribble est né d'un refus de contact ou d'une difficulté de contact, voilà, mais évidemment, aujourd'hui, on n'en est plus là. Le football, c'est bien autre chose. Le football, aujourd'hui, c'est un immense marché planétaire. C'est le premier sport au monde. Voilà, c'est une forme capitaliste absolument redoutable. Qui fait que le football est la dimension de l'imaginaire d'une grande partie de la jeunesse dans laquelle elle se retrouve, dans laquelle elle baigne et vis-à-vis de laquelle il est très difficile de critiquer quelque chose. J'ai par exemple tenté quelque chose au moment de la Coupe du Monde du Qatar. On avait beau dire, et toute la gauche pouvait chouiner sur c'est l'horreur de ces esclaves pakistanais et autres dont qu'on prive de tous les droits, dont on enlève les passeports, etc. Le pays est un pays pourri, c'est une dictature, etc. Mais finalement, c'est pas mal que ces lieux là-bas, hein, parce que finalement c'est plutôt bien organisé, et puis le foot, on aime tellement ça. Bon, ça c'est très difficile de lutter contre cette vision des choses qui séparent ce qui est de l'ordre du politique de ce qui est de l'ordre du football intrinsèque, comme s'il pouvait y avoir, vous voyez, une gestuelle footballistique intrinsèque qui serait séparée de l'environnement politique dans lequel finalement il évolue.
Vous m'amenez une petite question juste avant la pause musicale. Vous dites le football est le premier sport mondial, mais c'est en termes de nombre d'adhérents ou de bénéfices, le profit que ça génère? Je vous pose peut-être une question, Pierre.
Oui, non, c'est en termes de licenciés. Hein,
c'est en termes de licenciés.
Le nombre de licenciés, d'accord. Puis surtout en termes de, comment dire, de clubs, hein, de clubs sur la planète. Hein. Alors tous les pays d'ailleurs ne sont pas envahis par le foot. Hein. Vous avez encore des pays nombreux. Hein, ne serait-ce que les États-Unis, hein, où le football n'est pas ultra présent. Hein, c'est pas le premier sport. La Chine non plus. Mais c'est vrai que on voit l'extension du football se faire, hein, en particulier avec les pays du Moyen-Orient, hein, qui reprennent, hein, le football, l'institution footballistique, le Qatar.
Merci beaucoup Marc, on va se retrouver dans un petit instant pour aller plonger au cœur des JO de Paris. On marque une petite pause musicale au milieu de tous ces constats. Partant du postulat que vous êtes bien réveillé, voilà de quoi vous envoler sur un son particulièrement électrique qui file la métaphore de l'homme-machine, classé officiellement heavy metal, les métallos diraient pop-rock tant la guitare est propre. On vous laisse juge avec Metallica, Fuel.
Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. We'll be right back.
Vous êtes encore et toujours sur Radio Libertaire dans l'émission du Chiffon, le trimestriel indépendant de Paris et sa banlieue qui vous décale le regard, en tout cas qui tente. Ce son décidément fait l'effet de 5 expressos. Nous sommes toujours en compagnie de Marc Perelman, professeur à l'Université de Nanterre, architecte de formation et auteur entre autres d'un ouvrage 2024, Les Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu, paru en 2021 aux éditions du Détour. On arrive au cœur du sujet, après avoir cerné ce qui avait animé le petit Marc dans les années 70 et son rapport au sport, l'idéologie du sport présentée comme incontestable. Nous arrivons donc à nos JO 2024. Tout petit retour en DeLorean si nous avons le temps. Vous évoquiez, Marc, qu'il y avait eu une première ère des boycotts organisés par des États, notamment avec ce contexte de guerre froide en toile de fond, et que l'opposition était très peu individuelle. Et vous releviez l'existence d'un athlète marathonien, Gary Fanelli, qui avait été un des pionniers à protester contre l'interdiction de se rendre à Moscou sur la base d'un des principes de la charte olympique. Les compétitions ne se déroulent pas entre nations, mais entre athlètes. Qu'en est-il de ce principe?
Bon, vous allez un peu au cœur du sujet, qui est vraiment...
Pieds dans le plat.
Ouais, qui est complexe d'ailleurs. C'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, on le voit en ce moment avec la guerre... entre l'Ukraine, enfin la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, à propos évidemment de la participation des athlètes.
En fait, quel est le statut des athlètes? C'est assez compliqué, hein, parce que du point de vue de la charte olympique, il n'y a pas de compétition entre nations. D'ailleurs, le mot nation n'apparaît nulle part dans la charte olympique. Hein. Je les ai étudiés depuis les premières chartes, hein, qui s'appelaient pas d'ailleurs une charte. Et aujourd'hui, la charte, c'est une centaine de pages, extrêmement détaillées, précises, etc. Mais le mot nation n'apparaît pas. Et donc, la charte olympique, qui est vraiment la bible de l'Olympisme, qui est le bréviaire sur lequel s'appuie le CIO, indique bien que c'est une compétition entre athlètes. Hein, donc, a priori, comme individu, entre guillemets, libre, hein, détaché, en quelque sorte, voyez, de son lien avec le pays qu'il représente. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, en fait, parce que un athlète, il est lié à son pays dans le sens où il est lié au comité national olympique de son pays. Vous voyez, le comité national olympique français, le comité national olympique américain, russe, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que les athlètes sont choisis sur la base de leur performance, hein, à travers ce qu'on appelle une qualification. Ils sont choisis en fonction de leur qualification, réussie ou pas. Et c'est le comité du pays qui choisit les athlètes. Vous voyez, ça ne se fait pas de manière universelle. C'est chaque pays qui le fait. Donc chaque comité olympique national qui décide si tel ou tel athlète participera. Donc il y a quelque chose d'assez complexe. C'est à la fois un athlète libre du point de vue de la charte olympique, voyez, mais c'est en même temps un athlète qui est évidemment lié à la nation, qu'il ne représente pas directement, mais dont il est le représentant en tant que membre du comité national olympique local, national. Voyez. C'est assez compliqué. Et c'est vrai que le CIO joue beaucoup sur cette ambiguïté-là. On voit, par exemple, au moment de l'ouverture des Jeux Olympiques, les délégations olympiques qui défilent par pays, drapeau en tête, et drapeau du pays en tête. Le premier pays, d'ailleurs, à défiler, c'est la Grèce, traditionnellement. Puis ensuite, vous avez, par ordre alphabétique, l'ensemble des pays. Mais ils défilent derrière le drapeau américain, japonais, australien, etc., etc. Donc c'est complexe. Vous voyez, c'est à la fois des athlètes, entre guillemets, libres, avec un statut libre, mais en même temps des athlètes, de fait, représentant leur nation. Puis de fait aussi, officiellement, il y a un classement des meilleures nations. Alors, c'est très officieux, mais ça participe, vous voyez, de l'aspect nationaliste des Jeux Olympiques. Qu'a priori, encore une fois, la charte olympique ne veut pas. Mais on fait avec. Et donc, cette complexité-là, vous voyez, du statut de l'athlète, on le voit aujourd'hui, en particulier avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pas plus tard qu'hier soir, le CIO a décidé que les Russes, que les athlètes russes et les athlètes biélorusses, s'ils ne sont pas liés à l'armée, s'ils n'ont pas approuvé l'intervention russe en Ukraine, eh bien, pourront participer sous bannière neutre aux Jeux Olympiques. Bon. Voilà. Donc, ça a mis en ébullition beaucoup de monde. Ça a mis en ébullition les Ukrainiens, qui disent, mais on sait pertinemment que la bannière neutre n'est pas si neutre que ça. Que cette bannière neutre, en fait, derrière, ce sont les athlètes russes et biélorusses. Donc les Russes disent, il n'est pas question que nos athlètes se retrouvent derrière une bannière neutre. Nous voulons, comme les autres nations, que nos athlètes participent aux Jeux en tant que Russes et Biélorusses. Ce que pour l'instant, le CIO refuse, puisqu'il ils imposent la bannière. C'est relayé aussi, enfin cette mise en ébullition dont je parlais est aussi du côté des Ukrainiens. Les Ukrainiens disent, nous, il n'est pas question qu'on participe aux Jeux Olympiques, y compris si les Russes et Biélorusses viennent sous bannière neutre. Parce que M. Bach, c'est le président du CIO, vienne chez nous en Ukraine, qu'il voit ce que signifie la neutralité du point de vue du CIO. Qu'il vienne voir nos villages, nos villes bombardées, et il s'apercevra que chez nous, il n'y a pas de neutralité. Parce que la grande idée de l'olympisme, qui est une idée assez subtile quand même, hein, les membres du CIO sont des voyous, mais c'est pas des idiots. Le CIO parle pas de neutralité comme ça en général. Ils disent, je reprends exactement les termes même de Thomas Bach, ils disent nous ne sommes pas apolitiques, nous ne sommes pas non politiques, nous sommes pour la neutralité politique, c'est-à-dire que nous ne voulons pas prendre position, prendre parti. Voilà. Donc c'est une position, vous voyez, beaucoup plus entre guillemets subtile, en tous les cas beaucoup plus compliquée qu'on pourrait l'imaginer. Donc les Russes protestent parce qu'ils veulent pas être sous bannière neutre. Les Ukrainiens évidemment disent qu'ils n'iront pas et donc remettent en avant l'idée de boycott. C'est ce qu'ils avaient dit préalablement il y a déjà quelques temps, hein, au début de la guerre, en disant il n'est pas question que nos athlètes rencontrent des athlètes russes qui sont en fait les gens qui sont venus nous attaquer et nous assassiner. Bon, et ça va plus loin. La Fédération internationale d'athlétisme, parce que le CIO est organisé sous la forme de fédération par discipline sportive, fédération d'athlétisme, fédération de natation, fédération d'escrime, etc. La Fédération internationale d'athlétisme, qui est dirigée par Sébastien Co, vient de dire pas de Russes et de Biélorusses aux Jeux Olympiques. Donc là, vous voyez que la chose est incroyablement complexe en ce moment, et on ne sait pas trop ce qui va en ressortir. En général, ce qu'il en ressort, c'est que c'est le CIO qui a le dernier mot. Et qu'en général, la plupart des pays ou des comités s'adaptent, acceptent ce que dit le CIO, parce que encore une fois, la puissance du CIO est telle qu'ils peuvent en faire rentrer dans le rang n'importe quel pays, y compris la Russie.
Donc un lissage du discours avec cette sorte de neutralité. Vous parlez donc de cette première ère des boycotts organisés par les États, et ensuite succède une ère un peu plus floue. Est-ce que vous pourriez peut-être revenir un peu sur, pour l'auditeur, de quoi procédaient les boycotts réels des JO de Pékin et de Sochi par exemple? Est-ce que il demeure toujours des logiques politiques, pardon, je vais y arriver, qui changent, mais le fond reste une rivalité entre États bêtes et méchantes?
Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a eu ce qu'on pourrait appeler l'ère des boycotts, hein, qui date en gros de 56 à 84, quoi, à peu près, hein, sur une trentaine d'années, où vous avez eu vraiment d'Olympiade à Olympiade, de Jeux Olympiques à Jeux Olympiques, vous avez eu beaucoup de pays qui boycottaient, hein, pour des raisons diverses. En 56, c'était pour des raisons diverses. Certains pays, c'était par rapport au canal de Suez, ou par rapport à la Hongrie, hein, l'envahissement de la Hongrie par l'Union soviétique. Et puis plus tard, ça a été évidemment la grande rivalité, ce qu'on appelait la guerre froide, hein, entre les États-Unis et l'Union soviétique, où les Jeux Olympiques de Los Angeles avaient été boycottés, puis ensuite ceux de Moscou, hein, surtout qui avaient été boycottés par en gros le bloc occidental, sauf d'ailleurs la Grande-Bretagne et la France. Et puis donc cette ère, disons, des boycotts, c'est vrai, c'est progressivement diminué, effacé, on assiste plutôt à une nouvelle, disons, universalisation, vous voyez, des participants, hein, avec encore quelques peut-être boycotts ici ou là, mais globalement la plupart des pays veulent vraiment participer aux Jeux Olympiques, parce que ça représente un événement mondial et vu, hein, par entre 3 et 4 milliards, hein, de téléspectateurs, plus que les Coupes du Monde de football, eh bien, être présent aux Jeux Olympiques est un élément fondamental pour montrer, alors selon les pays, évidemment, la puissance du pays, hein, la puissance des athlètes, en quelque sorte, le fait qu'un athlète éthiopien est victorieux d'un marathon ou d'un 5000 mètres, eh bien, rejaillit, en quelque sorte, sur le pays lui-même, qui est montré à travers, tout simplement, sa mise en image, hein, entre autres, par le truchement de la télévision.
Donc, finalement, des JO qui sont demandés par les pays, pas forcément par les populations, ou une espèce de consensus mou. On arrive dans la dernière partie de cette émission, on va être pris par le temps, mais vous avez participé au comité non aux JO 2024 à Paris, sans succès, et vous évoquez une opposition qui s'est un peu diluée dans une succession de raisons très pragmatiques, qui n'était pas une opposition théorique que vous appeliez de vos voeux. Est-ce que vous pouvez résumer un peu pour l'auditeur cette mobilisation pré-candidature qui n'a pas...
Alors, il y a souvent eu des mobilisations, hein, contre les Coupes du Monde de football, contre les Jeux Olympiques. Le vrai boycott, évidemment, c'est le boycott des États. Hein. Les populations... n'ont jamais réussi à faire en sorte que leur propre pays boycotte en quelque sorte les Jeux. Hein, même en 36, hein, c'était à deux doigts, mais voilà, c'est pas passé. Hein. En 36, il y a eu une grande mobilisation aux États-Unis pour que l'équipe olympique américaine, et en particulier l'équipe d'athlétisme, n'aille pas aux Jeux. Mais finalement, finalement les États-Unis y sont allés. Voilà, donc. Pour reprendre votre interrogation, c'est vrai que voilà, les Jeux Olympiques sont un moment qui aujourd'hui devient un moment comment dire important, vous voyez, pour les pays, pour la participation des pays, hein, à ces Jeux, parce qu'ils représentent un moment puissant pour leur propre gouvernement. D'ailleurs. Souvent, aux cérémonies d'ouverture, vous avez les présidents, les chefs d'État, hein, qui viennent, voilà, et qui sont censés représenter évidemment leur pays, leur équipe, hein, leur équipe. Bon. Donc importance, hein, importance pour ces chefs d'État d'être présents, et de plus en plus de difficultés alors à critiquer encore une fois ou à remettre en cause les Jeux Olympiques eux-mêmes. Hein, alors il y a eu quelques tentatives, en particulier c'est vrai au moment de Pékin, hein, en 2008, hein, aux Jeux de Pékin, voilà, où il y a eu des pétitions, où certains on parlait d'un boycott, mais qui n'était pas véritablement un boycott, qui était plutôt un boycott diplomatique, c'est-à-dire à l'époque même Sarkozy, hein, avait dit qu'il n'irait pas à la cérémonie d'ouverture. Finalement, il y est allé. Voilà. Mais ça restait plus symbolique qu'autre chose. Mais un véritable boycott, c'est un boycott évidemment des équipes. Bon. Et ça, la nation qui décidera, ou le chef d'État qui décidera que l'équipe lui interdira à l'équipe de se rendre au JO, prendra une lourde responsabilité, évidemment, par rapport aux autres pays. Et pour l'instant, on ne voit pas véritablement poindre ce type d'initiative. Alors, il y a eu beaucoup de critiques, hein, de Sochi en particulier, sur l'aspect écologique, sur l'aspect, évidemment, de la violence qui était faite à l'époque contre le mouvement LGBT, contre les homosexuels.
Avec des infrastructures qui pourrissent.
Voilà. Et puis sur l'aspect absolument démesuré, hein, de la transformation des villes, hein, là en l'occurrence Sochi, ça a été le budget je crois le plus important depuis l'ensemble des Jeux Olympiques, où on a transformé carrément le paysage lui-même, on déplaçait des montagnes, on faisait déplacer des cours d'eau, on a construit véritablement un village, etc., qui fait que voilà, on s'est dit mais et aujourd'hui c'est une ville fantôme.
Décidément, avec vous, on pourrait faire trois émissions, mais là, j'aimerais interroger l'architecte et votre point de vue sur le collectif Saccage 2024. D'ailleurs, je précise à l'auditeur que le mot saccage, que vous qualifiez d'ailleurs d'impropre, nous allons y venir, ne fait que décrire les conséquences qu'auront les JO. Et il ne s'agit pas d'une mise à sac de Rome, de Paris ou que sais-je. Et vous pointez le fait qu'il sous-évalue un peu la place de la puissance intrinsèque des JO et une logique irréversible de production de consensus. Tous les syndicats, à l'exception de Sud, ont signé la charte sociale en faveur des JO, qui est une véritable locomotive dans le chamboulement urbain dionysien qui va bien au-delà de la Seine-Saint-Denis. Et nous permettons de finir cette émission en chiasme. Nous avions commencé avec la durée des JO d'une quinzaine de jours. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots les bouleversements que va connaître toute l'Île-de-France pour l'organisation de ces Jeux Olympiques?
Dès l'annonce, et même un peu avant, des Jeux Olympiques 2017, hein, septembre 2017, le bouleversement urbain, ce que dans le langage ou le jargon technocratique on appelle le renouvellement urbain, était mis en œuvre. On l'a vu à Paris là, pendant toutes ces années, depuis 2017, hein, où vous aviez un nombre de chantiers sur Paris absolument gigantesque. Hein. Moi, j'ai relevé plus de 7000 points de travaux dans Paris, à telle enseigne que Paris était devenu, toutes ces années, totalement impraticable. Alors, Madame Hidalgo, au nom de l'écologie, etc., nous disait moins de voitures, mais en fait, Paris était dans un embouteillage monstre, hein, à cause des travaux. Mais c'est pas que ça. La puissance, si vous voulez, des Jeux Olympiques et ceux de Paris 2024, c'est surtout la transformation ou la mise en œuvre d'une politique de circulation urbaine. Hein, voilà. C'est plus tellement et le dossier de candidature s'appuyait là-dessus. Hein, on ne construit pas de nouvelles choses. Il n'y a pas de nouveaux stades. Il y a un ou deux éléments comme ça, gymnase, piscine, etc. Mais c'est relativement peu. La globalité des sites, en quelque sorte, sportifs, des lieux sportifs sont là. Non, ce qu'a visé surtout les édiles, disons, Madame Pécresse, Madame Hidalgo, et puis l'ensemble des maires, des couronnes d'Île-de-France, hein, c'est tout d'un coup l'implantation d'un réseau urbain, d'un réseau métro, d'un réseau SNCF, avec la création de plus de 60 gares. Voilà. En un laps de temps relativement court. Hein. Et ça, c'est l'impact même des Jeux Olympiques qu'il permet. Ils avaient prévu, s'il n'y avait pas eu les Jeux Olympiques, d'étaler ça sur 35-40 ans. Avec les Jeux Olympiques, ça leur permet d'accélérer l'implantation de 68 gares en région parisienne et donc créer, voyez, des pôles urbains nouveaux. Alors, de détruire des habitations, hein, vous avez des nouvelles gares qui ont aux alentours détruit des habitations, et puis vous avez des nouvelles gares qui vont créer des lieux urbains nouveaux avec une densité, une nouvelle population où on va installer tout simplement de nouveaux immeubles, etc., etc. Donc, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les Jeux Olympiques, c'est un accélérateur. Un accélérateur, vous voyez, de la concentration, de la densité et de la création ou de la participation de ce qu'on appelle par ailleurs le Grand Paris Aménagement ou le Grand Paris Express. Hein, avec l'implantation, encore une fois, de gares qui vont permettre l'implantation de nouvelles habitations et la densification d'une banlieue encore plus importante. C'est tout l'intérêt que l'on a à réfléchir sur le devenir même de la ville. Et de ce point de vue-là, les Jeux Olympiques ont un impact particulier, c'est-à-dire que ils accélèrent la transformation de ce que j'appelle l'anti-ville. Hein. Paris se vide, au profit, si je peux dire, de ses couronnes, de plus en plus lointaines, comme une espèce de tache d'huile hein, qui progresse progressivement de plus en plus loin, avec un centre qui reste présent, évidemment la ville de Paris, mais où la couronne proche et lointaine tend, elle aussi, à se construire et à se reconstruire. C'est pour ça que, quand on parle de saccage, pour les Jeux Olympiques, c'est une erreur profonde. Il n'y a pas de saccage. Hein. Tout au contraire, on détruit rien, on casse rien. Alors c'est vrai qu'on bétonise, c'est-à-dire d'une certaine façon, on prend sur des espaces verts. Je pense en particulier au parc Georges Valbon, hein, qui normalement est une réserve Natura 2000 et sur laquelle on a pris une partie de ce parc pour transformer ça en logement. Mais globalement, l'idée, c'est de construire. Détruire, en partie, mais pour reconstruire. Donc, pas de saccage, il n'en reste pas rien. Non, au contraire, on construit énormément. Le seul problème, évidemment, c'est qu'on construit pour une autre population. Et c'est ça le deuxième point sur lequel je veux insister. Les Jeux Olympiques, c'est une centrifugeuse sociale. C'est-à-dire que ça permet tout simplement à la ville de se renouveler, si je peux dire, en expulsant les populations qui ne peuvent pas se permettre d'acheter ou de louer, même tout simplement, là où elles sont, pour les éloigner toujours un peu plus. Et les nouvelles populations sont des populations de cadre moyen, cadre supérieur, qui vont pouvoir effectivement intégrer, par exemple, le village des athlètes ou le village des médias, qui sont un type de construction avec un coût, évidemment, de fabrication, une qualité de fabrication, que les habitants de Saint-Denis, évidemment, ne peuvent absolument pas se payer. J'ai regardé par intérêt pour voir le prix moyen, voyez, de la vente, c'est 7000 euros le mètre carré. Bon, tout le monde ne peut pas se permettre ça. En tous les cas, pas les gens de Seine-Saint-Denis actuels. Mais par contre, ceux qui veulent voir un remplacement ou un grand remplacement quelque part, peuvent le voir là. Le vrai remplacement, il est là. Les populations pauvres, on les expulse encore plus loin, comme on avait expulsé les ouvriers, les artisans, etc. Eh bien, on les remplace aujourd'hui par une nouvelle population qui ne peut plus habiter Paris et qui vient habiter la
première couronne, et puis par vague, si je peux dire, habite de plus en plus loin jusque la quatrième, cinquième couronne. C'est ça le type de ville que je refuse, évidemment, mais que les Jeux Olympiques, que l'impact des Jeux Olympiques, vous voyez, que le vecteur des Jeux Olympiques oblige en quelque sorte ceux qui finalement ont accepté d'être ville haute, oblige à respecter et à, d'une certaine façon, à développer.
Avec une espèce de ghettoisation entre les lieux de travail, les lieux d'habitation des travailleurs, qui pourront rejoindre leur lieu de travail plus rapidement grâce aux nouveaux moyens de transport présentés comme...
Exactement. C'est le transport, ce que disait un philosophe, le transport dans la société, disons, capitaliste moderne, c'est le maître caché. Faut circuler aujourd'hui. Faut circuler pour pouvoir aller de son travail à son habitation, pour pouvoir se rendre d'un endroit à un autre, etc. Et c'est vrai que l'Île-de-France, de ce point de vue-là, est tout à fait manifeste, vous voyez, de cette ville, voilà, où le transport devient un élément essentiel. Un élément essentiel. On n'est plus dans des lieux où on doit pouvoir respirer à travers la nature, mais où ce qui est fondamental, c'est de pouvoir trouver vite une gare, de pouvoir vite se déplacer, de pouvoir vite se rendre à un endroit, de pouvoir vite revenir chez soi. Et ça, les Jeux Olympiques, c'est la possibilité, vous voyez, d'être ce vecteur de mobilisation, alors des grands, évidemment, des grands constructeurs, hein, Bouygues, Eiffage, etc., qui, comme ils disent, se gavent, parce que eux, évidemment, construisent à tout va ces gares et participent, hein, de cette transformation de notre ville en une forme, ce que j'appelle, d'anti-ville. Est-on encore vraiment en ville aujourd'hui?
Après l'opposition de la mobilisation pré-candidature, Saccage 2024 vous a un petit peu déçu. Est-ce qu'il y a d'autres oppositions aujourd'hui? Quel va être le calendrier jusqu'au fameux JO dont on va avoir les oreilles rebattues?
Oui.
Avant l'été 2024?
Je sais pas, moi je maintiens mon pronostic à travers l'intitulé de mon livre, hein, les Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu, vous voyez, je mets ça au passé composé, c'est-à-dire je me trouve déjà après, et je regarde en arrière et je me pose vraiment la question. Alors paradoxalement, vous voyez, c'est en même temps une vraie angoisse d'avoir donné ce titre, parce que ça veut dire que si les Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu, précisément quand ils n'ont pas eu lieu, ça a été pendant des périodes de guerre. La Première Guerre mondiale, 1916, où normalement il devait avoir lieu à Berlin. C'est pour ça d'ailleurs que Berlin a eu les Jeux Olympiques en 36, parce qu'ils n'ont pas pu les avoir en 1916. Et puis la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont pas eu lieu en 40 à Tokyo, et en 44 à Londres. Londres finalement les a eu en 48. Et je me dis que, paradoxalement, même si mon plus grand souhait, c'est que ces Jeux n'aient pas lieu parce qu'ils vont être le moment d'une cristallisation, disons, d'un ensemble de problèmes liés aux guerres, liés à la sécurité, qui fait que toutes les idées si généreuses mises en avant par les Jeux Olympiques, la culture, l'éducation, le respect, la jeunesse, que sais-je encore, tout ça risque d'être violemment battu en brèche par des événements beaucoup plus radicaux qui pourraient risquer de mettre fin aux Jeux Olympiques à Paris 2024. Je rappelle que les Jeux Olympiques de Tokyo devaient avoir lieu en 2020 et qu'ils ont été déplacés d'une année à cause du Covid. À l'époque, je me souviens très bien, le gouvernement japonais était totalement opposé à ces Jeux Olympiques, y compris en 2021. Et pourtant, le CIO a réussi à les imposer. Bon, qu'est-ce qui va se passer là? Est-ce qu'il va y avoir des appels au boycott des Ukrainiens? Que va-t-il se passer avec les Russes? Quelles pressions vont-ils effectuer? Est-ce que la Chine va profiter, comme elle le dit, va profiter des Jeux pour rompre la trêve olympique et envahir Taïwan, qu'elle considère comme une province lui appartenant?
Est-ce qu'il va y avoir d'autres moments violents de confrontation politique, y compris sur notre territoire, où on s'aperçoit que cette grande fête qui nous est annoncée se mesure quand même à l'aune de la mobilisation policière, de gendarmes et de militaires. Hein, je constate que, par exemple, un camp de militaires, de 5000 militaires, va être installé sur la pelouse de Reuilly pendant la durée des Jeux Olympiques. On nous dit, le ministre, un des ministres nous dit quittez Paris et l'Île-de-France, télétravaillez, ne venez pas